Chapitre 3. Par une froide nuit de décembre, vers 1 heure du matin, un jeune homme de haute taille, portant une chaude pelisse de fourrure, sortait du nouveau cercle du progrès installé dans cette partie du boulevard Haussmann, noire et triste, qui avoisine la rue Taitbout. Ce jeune homme, dont la tournure était singulièrement hardie et décidée, beau garçon de 30 ans, au visage olivâtre et à la moustache noire, traversa la chaussée d'un pas rapide et monta dans un coupé de maître, admirablement attelé, qu'un chausseur du cercle venait de faire avancer. Il ne donna pas d'adresse à son cocher avant de monter, il se contenta de lui faire un signe, et la voiture, filant rapidement, prit la rue Taitbout et se dirigea ensuite sur les hauteurs. Elle tourna le coin de la rue Frochot et suivit les boulevards extérieurs. Il dégelait depuis 2 jours. L'élégant coupé roulait dans les mares de boue et coupait de ses roues minces les tas de neige amoncelés près des trottoirs. Les boulevards étaient déserts. C'est à peine si, çà et là, on apercevait un rare passant courbant l'échine sous la pluie fine qui tombait et pressant le pas afin d'éviter les mauvaises rencontres. Parfois aussi, sur le terre-plein bordé d'arbres où l'on remarquait encore les traces blanchâtres laissées par la neige qui achevait de fondre, errait une fille, les jupes retroussées, pataugeant dans l'air somnolent dans la terre détrempée, et attendant quelque ivrogne attardé que ses charmes hideux pouvaient séduire. Enfoncé dans son coupé capitonné de satin marron, le jeune homme semblait peu se préoccuper de ce qui se passait autour de lui. Le bruit des roues rebondissant sur le pavé attirait parfois l'attention de quelques ouvriers sortant d'un cabaret qu'on fermait. Il regardait avec étonnement ce joli coupé attelé d'un grand cheval noir aux actions extraordinaires. À cette heure tardive, il ne voyait guère sur le boulevard d'autres voitures que les lourdes charrettes des maraîchers. Après avoir longé les boulevards de Clichy et Rochechouart, le clocher ralentit un peu l'allure étonnamment rapide de son cheval. Il tournait fréquemment la tête comme pour s'assurer qu'on ne l'avait pas suivi. Il s'arrêta enfin à l'angle du boulevard de la Chapelle et d'une petite ruelle sombre dont l'écriteau bleu portait « Impasse du Paradis ». Le jeune homme ouvrit la portière et descendit. Quand il fut sur le trottoir, il ôta sa pelisse de fourrure qu'il laissa dans la voiture, puis il regarda quelques instants autour de lui, comme s'il voulut être bien certain que le boulevard était désert. Alors il donna un ordre rapide à son cocher, « Dans 1 heure, au coin du boulevard Barbès !» Et tandis que la voiture s'éloignait au pas, il se glissa dans l'impasse en marchant vite, car il était en habit noir et en cravate blanche, et le froid le saisissait. Cette ruelle était très étroite, il y faisait fort sombre. Après l'avoir traversée sans hésiter, le jeune homme alla frapper 3 coups, espacés d'une certaine façon, contre une petite porte basse que l'on distinguait à peine dans l'ombre. Au bout de quelques instants, un judas, protégé par un grillage, s'ouvrit, doucement, et une voix rauque demanda « Qui est là ?»«
Le Pérou !» répliqua le jeune homme.
La porte s'ouvrit et il passa. Il traversa un petit corridor entièrement noir et entra dans une salle carrée éclairée par une lampe à pétrole suspendue au plafond. Au milieu de cette salle, dont une épaisse fumée de tabac obscurcissait l'atmosphère, plusieurs hommes étaient réunis, si l'on peut dire le nom d'hommes, aux êtres repoussants et dégradés qui causaient là, avec leur voix d'ivrogne, autour d'une table où trônait un énorme saladier de vin chaud à moitié vide. « Ah, voilà le Pérou !» dit l'un d'eux au moment où la porte s'ouvrit pour laisser passer le jeune homme. « Viens ici, compagnon, il y a un verre qui t'attend !» Celui auquel on donnait ce nom bizarre entra lentement et ne parut nullement étonné du singulier spectacle qu'il avait sous les yeux. Êtes-vous tous là ? Dit-il en les comptant du regard. Je ne vois pas Greliche.
Bon, celui-là, il flanche souvent. Fais pas attention, répliqua un autre hideux type de souteneur avec une redingote très usée, boutonnée étroitement et de travers, une cravate rose, une casquette de soie et un bout de cigare éteint entre ses dents noires. Il portait le sobriquet de fil de soie.
Bien longtemps qu'on t'a pas vu, le Pérou, reprit une sorte de bouledogue à la tête ronde, complètement rasée, aux yeux bridés, à la bouche avachie, qui cachait sous sa blouse et limait un corps trapu d'une étonnante vigueur.
C'est vrai, le bœuf, répondit le jeune homme en enjambant une chaise contre le dossier de laquelle il s'accouda.
Voilà bien 8 jours que je n'ai contemplé ta troïde de soulard. À la tienne, mon vieux.
Et prenant de sa main gantée de gris-perle un des lourds verres remplis d'un breuvage noirâtre qui fumait, il trinqua avec l'homme assis près de lui et avala le vin chaud jusqu'à la dernière goutte.
« C'est parce que t'as de si beaux habits que tu fais le fier, » reprit un troisième compagnon, un gamin imberbe qui avait à peine 18 ans et dont la voix éraillée trahissait déjà de longs services dans la noble industrie du camelot.
« Mince de chic alors, est-ce qu'on peut toucher, mon prince ?»
Et il passait sa patte d'araignée noire sur la manche du jeune homme, dont il palpait la fine étoffe avec des grimaces d'admiration.
« Tais-toi, fureton !» dit le bœuf en le repoussant d'un coup de poing, qui faillait le faire rouler à terre avec sa chaise. « Laisse causer le patron !»«
Mais il te demande pas ce que tu fais de ton argent, n'est-ce pas, vermine ?» répliqua à son tour fil de soie, en contemplant le gamin d'un air de profond mépris.
« D'ailleurs, il est notre chef, hein, il a le droit de travailler seul. Et tant mieux pour lui si les affaires sont bonnes. »«
Allons, silence !» dit le Pérou, qui venait d'allumer un excellent cigare et dédaignait de répondre aux plaisanteries de Farton. « Écoutez-moi, c'est sérieux !»
On entendit le glissement des chaises sur le carreau et les 4 bandits se rapprochèrent du jeune homme.
« Viens donc, le loupeur !» dit Fil de Soie en interpellant un 5e compagnon qui se chauffait contre le poêle de fonte.
« Bon, je l'entendrai bien d'ici, » répondit le loupeur sans se retourner. « J'ai reçu la pluie sur l'eau toute la journée, j'ai besoin de me sécher. »
« Voici de quoi il s'agit, » dit le Pérou en tirant de lentes bouffées de son cigare. « Il y a au 3e étage d'une maison que je vous indiquerai tout à l'heure, un vieillard qui est seul avec sa vieille sœur. Ils vivent pauvrement, mais ils sont riches, plus de 200 000 francs d'argent et de valeur dans le secrétaire. » « Vous comprenez ce qu'il faut faire. Alors j'ai pris tous mes renseignements et je les donnerai à celui qui sera chargé de l'opération. »«
Un seul suffira ?» demanda le bœuf en allumant sa pipe.
« Pour 2 vieux !» s'exclama Fureton d'un air de l'état malheur. « Ça s'étrangle comme des poulets. »«
Eh bien, prépare les noms, trop chic, toi qui as été dans l'instruction. »
Celui qui répondait au nom de trop de chic et qui était un ancien ignorantin défroqué tira de sa poche un calepin graisseux auquel il enleva une page. Il déchira ensuite cette feuille en plusieurs morceaux.
« Faut-il vous inscrire, patron ? » demanda-t-il en regardant le Pérou de son œil louche.
« Non, inutile. Tu sais bien que si je voulais faire l'affaire à moi seul, je n'irais pas vous chercher. »
« C'est juste, puisque tout serait pour lui, » objecta Fil de Soie.
« Ah, ne mets pas non plus Greliche hein, qui est absent. »«
Je sais pas ce qu'il devient, cet animal-là, » dit le bœuf, « on ne voit plus. »«
Ah, ça, il boucharde pas, je suppose, » s'écria le Pérou, dont l'œil noir étincela.
« Tonnerre de Dieu, son verre serait vite fait. »«
On le surveillera, » dit Fureton. Les noms ayant été écrits sur les morceaux de papier, on se mit à les tirer au sort dans l'élégant chapeau du Pérou. Le dernier restant devait être le bon. À voir l'anxiété avec laquelle chacun attendait la proclamation de l'élu et le dépit que témoignaient ceux dont le nom sortait, on aurait cru qu'il s'agissait d'obtenir une faveur rare. Or, cette faveur consistait à risquer l'échafaud pour assassiner et dépouiller de malheureux vieillards. Il est vrai que la bande, conduite par son habile chef, avait été si heureuse depuis quelque temps, elle avait fait de si bons coups au nez de la police impuissante et réalisé par son audace de si importants bénéfices que chacun avait dans sa propre adresse ou dans sa force une confiance absolue et brûlait de tenter l'effrontruse. Il s'agissait en effet de 200 000 francs, or, d'après les règlements de cette étrange société, la moitié du butin devait appartenir à l'auteur du crime, un quart revenait à l'indicateur, en cette circonstance c'était le Pérou, et l'autre quart aux associés. Donc, pour celui qui tenterait l'aventure, si elle réussissait, c'était un bénéfice de 100 000 francs. Lorsque 4 noms furent tirés du chapeau et qu'il n'en resta plus qu'un seul dans le fond, tous les regards se dirigèrent vers l'homme qui se chauffait près du poêle. C'était lui l'heureux élu. « Oh, le vénard !» s'écria le bœuf en frappant la table avec son verre. « Oh, il a déjà eu l'affaire de la Villette !»« Eh bien, le Pérou, j'attends tes ordres !» dit en se levant celui qu'on désignait sous le sobriquet de loupeur. C'était un homme de petite taille, mince et nerveux. Une épaisse barbe noire envahissait son visage et montait presque jusqu'à ses yeux, dont le regard en dessous avait une expression inquiétante. Il portait un paletot râpé et un chapeau mou que la pluie de la journée avait détrempé. « Viens avec moi, » dit le Pérou en l'entraînant dans un coin de la salle. « Je vais te dire comment tu dois t'y prendre. » Et rapidement, à voix basse, il lui indiqua l'adresse, lui remit un plan de l'appartement et lui donna avec une netteté singulière tous les détails qui devaient faciliter l'accomplissement du crime. Il lui dit à quelle heure il était sûr de trouver seuls les 2 vieillards, quel prétexte il pourrait invoquer pour pénétrer jusqu'à eux, etc., etc. Quand ce fut fini, « C'est compris, n'est-ce pas ?» lui dit-il. « Allez, maintenant en route, le plus tôt sera le mieux. »« Scrum, rieur !» répliqua l'homme. « Demain, la chose sera faite. » Les autres compagnons s'étaient remis à boire et à fumer. « Et maintenant, Furton, » dit le Pérou en s'adressant au gamin, qui semblait fort triste de n'avoir pas été désigné par le sort, « allume-moi une lumière, je vais m'habiller. » Le Pérou prit une lampe fumeuse que Furton devait lui remettre et passa dans une pièce voisine où il resta quelque temps seulement. Quand il revint, il était méconnaissable. Par-dessus son habit de soirée, il avait passé une blouse noirâtre, un pantalon effrangé, et il avait enroulé autour de son cou un foulard sale qui cachait son col et sa cravate blanche. Une casquette de soie était posée sur sa tête, et il avait maquillé avec du rouge son nez et les pommettes roses de ses joues. De gros souliers de maçon, couverts de plâtre, cachaient ses fines chaussures vernies. « Allô, les compagnons, un dernier coup à votre santé et adieu !»« Tu te mets en campagne ?» demanda Fil de Soie. « Tais-toi, bavard !» répliqua le bœuf, qui semblait professer à haut degré le respect de l'autorité. « Le chef sait ce qu'il a à faire, allez, mêle-toi de ce qui te regarde. » Après avoir fait encore au loupeur quelques recommandations à voix basse et rappelé à la bande que l'absent Greliche avait besoin d'être surveillé, le Pérou vida un dernier verre de vin et quitta ses compagnons. Il marchait à grands pas à travers les rues noires et désertes, se retournant prudemment de temps en temps pour voir si quelqu'un discret n'était pas attaché à ses talons. Il atteignit ainsi, en peu de temps, une maison basse de la rue Polonceau. Cette maison était peinte en rouge et sur sa façade se détachaient en grosses lettres jaunes ces mots hauts de 2 pieds, « Commerce de vin ». Les volets étaient fermés, mais leur jointure laissait passer un mince filet de lumière. Le Pérou frappa plusieurs coups au volet de la porte,
qui bientôt s'entrebâilla doucement. Il entra. Quelques buveurs sommeillaient dans les coins, et le patron de l'établissement, le père Georges, allait de l'un à l'autre, les poussant par les épaules, et leur enjoignant de boire encore ou de filer. Lorsqu'il aperçut le Pérou, auquel un garçon triste et endormi venait d'ouvrir, il s'approcha avec un certain empressement et demanda ce qu'il fallait servir. « J'ai deux mots seulement à te dire, » fit le Pérou en le prenant à l'écart. « N'as-tu encore rien apporté pour moi ?»« Non, absolument rien, monsieur Gustave. » C'est singulier. Tu es sûr de tous les gens qui sont ici ? Reprit-il en jetant un regard circulaire sur les ivrognes qui l'entouraient. Pas de bouche. J'en réponds. Bon, ben je reviendrai encore demain soir. Adieu. Et tandis qu'il s'en retournait en marchant très vite vers l'angle du boulevard Barbès, où il avait donné rendez-vous à sa voiture, le Pérou murmurait avec un accent de dépit. Pas de réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, il tâche peut-être de découvrir quel est l'auteur de la lettre que je lui ai envoyée. Tu n'y parviendras pas, mon vieux. Faudra bien que tu mettes les pouces. Au bout d'un quart d'heure de marche, il aperçut son coupé qui stationnait à l'endroit indiqué. Il se dirigea de ce côté et monta en voiture, sans que le cocher parût s'étonner du singulier costume qu'avait pris son maître. « Au cercle !» commanda le Pérou. En route, il se débarrassa rapidement du foulard, de la blouse, du pantalon et des souliers. Il enleva avec son mouchoir le rouge qui lui teignait le nez et les joues, jeta sa casquette de soie dans un coin de la voiture et le remplaça par le chapeau claque qu'il avait eu la précaution de garder sous sa blouse. Quelques minutes après, il descendait à la porte du cercle du boulevard Haussmann et il franchissait lestement l'escalier couvert de moelleux tapis qui conduisait au salon. « La partie est-elle chère, morleux ?» demanda-t-il à un membre du cercle qu'il rencontra et qui s'en allait décavé. « Oh, vous arrivez bien, mon cher Valladores, » répondit Louis de Morleux en passant son paletot qu'un valet du cercle lui présentait. C'est Caserte qui tient la banque, où il gagne plus de 2 000 louis. Tâchez donc de le faire sauter. Monsieur le marquis, veut-il se débarrasser ? Demanda le valet en s'approchant du jeune homme. Valladores tendit sa pelisse qu'il venait d'ôter et entra tranquillement dans le salon de jeu. Il se fit servir une boisson chaude et alla s'asseoir un peu à l'écart. Depuis 15 jours qu'il faisait partie du cercle, il avait toujours eu un bonheur remarquable. Aussi les joueurs, qui luttaient en ce moment d'une façon si malheureuse contre la chance persistante du comte de Caserte, venaient-ils à chaque instant le solliciter de s'asseoir à la table de jeu, persuadés que sa présence allait faire tourner la veine. Mais cette nuit, Valladores ne voulait pas jouer. Il restait sourd à toutes les prières. Il ne se désintéressait pas pourtant de la partie. Assis à peu de distance du banquier, il surveillait attentivement les coups et, lorsque le comte de Caserte faisait un bel abattage et ramassait les piles d'or et les liasses de billets, un furtif sourire errait sur les lèvres pâles du jeune homme. Au bout de quelques instants, le comte de Caserte tira sa montre. « Messieurs, dit-il, je vous préviens que je tiens la banque jusqu'à 3 heures seulement, quelle que soit la veine. À 3 heures précises, je passe la main. » Et il continua à jouer et à gagner. Vers 2h30, M. de Valladores se leva et se dirigea vers l'antichambre. Quelques minutes après, sa voiture remontait au grand trot la rue Taitbout. M. de Caserte tint parole. Au moment où 3 heures sonnèrent, à la grande pendule de la salle de jeu, il remit les cartes sur la table en disant « Messieurs, je passe la main ». En même temps, il quitta le cercle des joueurs après avoir rangé méthodiquement dans son portefeuille les billets épars devant lui.
Voilà trois nuits de suite qui gagnent avec une veine insolente, dit un des pontes en le regardant s'éloigner. Savez-vous quel est le comte Caserte?
Oh, c'est un Napolitain d'excellente famille, répondit quelqu'un.
Oh, je le connais depuis longtemps, et je réponds de lui. Le fait est qu'il a eu des mains superbes.
Le comte de Caserte, qui était en effet un fort honorable gentilhomme, au-dessus de tout soupçon, habitait depuis quelques minutes années rue d'Aumale. Il avait une fortune considérable et était grand joueur. Il s'était fait recevoir au cercle du progrès parce qu'il se trouvait là dans son voisinage. Il aimait à revenir chez lui à pied en sortant de ses salons surchauffés où l'on avait la fièvre. Il alluma donc un cigare et se mit en route d'un pas alerte, les deux mains dans ses poches. Il suivait depuis quelques minutes la rue Têtebout, lorsque, après avoir passé la rue de la Victoire, il fut abordé par un homme qui était sans doute sorti du renfoncement d'une porte cochère. Bien que la nuit fût très obscure, M. de Caserte jugea que cet individu avait fort mauvaise mine avec sa blouse sale et sa casquette de soie rabattue sur les yeux. Il fit un détour pour l'éviter, mais l'homme le prévint et, se campant devant lui, murmura d'une voix rauque « Pardon, monsieur, un peu de feu, s'il vous plaît. » Au moment où M. de Caserte levait le bras pour prendre son cigare, il reçut soudain au côté droit un coup violent qui le fit tomber. Il poussa un cri, fit un effort pour se relever, mais le couteau, manié par une main vigoureuse, avait percé ses épais vêtements et était profondément enfoui dans la poitrine. Il retomba sans connaissance. Alors l'homme se pencha sur lui, défit promptement les boutons de son pardessus, prit son portefeuille et sa bourse. Puis il le laissa baigner dans son sang, la tête plongeant dans l'eau noire du ruisseau, et il se mit à courir en longeant les maisons. Mais deux gardiens de la paix avaient entendu le cri poussé par la victime. Ils arrivaient en sens inverse. L'homme les entendit, il quitta le trottoir, prit le milieu de la chaussée et passa à côté d'eux. Les deux gardiens, devinant bien que cet homme qui courait devait être l'assassin, se lancèrent sur ses traces. C'étaient deux vigoureux gaillards, et peut-être auraient-ils fini par l'atteindre. Mais au moment où l'homme, qui avait sur eux une avance d'une dizaine de pas, tourna le coin de la rue de Châteaudun, ils ne furent pas peu surpris de le voir s'élancer dans une voiture qui stationnait là et qui partit aussitôt à fond de train. Ils essayèrent de suivre la voiture, mais ils durent bientôt y renoncer. Cependant, l'homme, en manière de ridicule plaisanterie, avait lancé par la portière son ignoble déguisement, la casquette, la blouse, le pantalon, que les agents ramassèrent dans la boue. Et alors, monsieur le marquis de Valladores, ou le Pérou, si l'on aime mieux, renversé dans le fond de son coupé, alluma une délicieuse cigare, en murmurant « Allons, la nuit aura été bonne. C'est une affaire de 5 000 louis au moins. Le portefeuille est lourd. A-t-il eu une veine, ce Caserte ?» Et il riait à part lui, en songeant avec quelle habileté et quelle audace il avait fait tourner à son profit la fortune dont le gentilhomme napolitain avait reçu quelques moments auparavant tant de faveurs. La voiture suivit au grand trot la rue de Châteaudun, la rue de Constantinople, et s'arrêta enfin devant un hôtel de l'avenue de Villiers. Sur l'appel du cocher, une haute porte s'ouvrit, et le coupé entra, paisiblement, sous la voûte. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la mort mystérieuse de M. Lasséna, et aucune révélation nouvelle n'avait encore apporté à M. Bidache le moyen de découvrir la clé de l'énigme. Jeanne espérait toujours que le retour de M. Mérantier pourrait leur fournir quelque éclaircissement sur le rôle que cet inconnu, cette Juana, avait pu jouer autrefois dans l'existence de son père. Ainsi qu'elle l'avait dit à M. Bidache, elle avait écrit à l'ancien capitaine au long cours pour le presser de venir la voir dès qu'il serait à Paris. En attendant, le désastre de la maison de banque était complet. Les exigences des créanciers, les cruelles impatiences des anciens amis de M. Lacéda avaient précipité la ruine. L'affaire était maintenant entre les mains du syndic. Le passif s'élevait à plus de 1400 000 francs et l'actif n'était que de 300 000 francs environ après la réalisation des valeurs disponibles et la vente de l'hôtel et des meubles de la rue de Feymont. On avait refusé tout arrangement amiable et l'intervention des gens d'affaires avait augmenté les frais dans une énorme proportion. M. Ravenneau s'était retiré à la campagne où il vivait de quelques petites rentes. Mais l'inaction après une vie si laborieuse, le chagrin que lui avait causé la mort de son ancien patron et le désastre de la maison de banque ne lui permettaient sans doute pas de jouir bien longtemps de sa retraite. Quant à Jeanne, elle se désespérait de cette absence de nouvelles, de ce temps d'arrêt que subissait tout d'un coup la découverte des assassins de son père. Les résultats étonnants qu'avait obtenus la sagacité de M. Bidache au commencement de l'enquête lui avaient fait espérer une prompte réussite. Et son désespoir était encore accru par certaines insinuations que l'on n'avait pas pu lui cacher. Quelques-uns des créanciers de son père l'accusaient d'avoir vidé le coffre-fort et de s'être approprié les valeurs qu'il contenait. Et elle n'avait aucun moyen de repousser cette infâme accusation. Quant à M. Bidache, il cherchait, il furetait toujours, sans trop rendre compte de détails de ses recherches. Mais sa douceur et sa patience ne l'abandonnaient pas. Et lorsque Jeanne l'interrogeait anxieuse, « Ne vous faites pas de mal, ma chère demoiselle, disait-il, de son temps tranquille, nous réussirons. » Il n'y avait pas longtemps qu'il osait appeler la jeune fille « ma chère demoiselle ». Elle l'y avait encouragée par la bonté, par l'affection qu'elle lui témoignait. Il lui apportait chaque fois qu'il venait un bouquet de fleurs de son jardin, et un jour même il avait tiré timidement de sa poche un rouleau de papier, il lui avait demandé son avis sur un petit sonnet qu'il s'était permis de composer à son intention. Le 23 décembre, Jeanne résolut de se rendre à Clamart pour visiter la maison où son père était mort un mois auparavant. Elle partit vers 3 heures, comptant aller trouver M. Bidache et lui demander de la guider. Mais elle eut une déception. Lorsqu'elle sonna à la porte de la petite maison habitée par l'ancien employé de la préfecture, une dame âgée, très polie et très modeste, probablement la mère du jeune homme, lui répondit que M. Bidache était absent depuis le matin. Jeanne fut donc obligée de traverser seule le village. Elle se dirigea vers la rue du Chemin Vert. À mesure qu'elle approchait du but de son pieux pèlerinage, elle sentait son cœur se serrer. La nuit venait. Néanmoins, à la description que M. Bidache lui avait faite, elle reconnut facilement la maison. Les volets étaient ouverts. Précisément, les propriétaires étaient venus ce jour-là, profitant d'un beau et froid soleil, pour donner un peu d'air aux chambres. Lorsqu'elle leur dit son nom et le but de sa visite, ils la regardèrent avec pitié et la firent entrer. C'étaient de bonnes gens, très simples, qui n'étaient pas encore remis de l'émotion que leur avait causé le drame affreux dont leur maison avait été le théâtre. Jeanne tomba à genoux au milieu du salon, à la place où on avait trouvé son père, la gorge ouverte. Un tapis de moquette aux couleurs éclatantes cachait le parquet où les traces de sang n'avaient pas pu être effacées. Elle resta là, prosternée pendant de longs instants. Les larmes coulaient sur son visage. Puis elle se leva et regarda lentement autour d'elle. ce salon mesquin, avec ses meubles d'acajou, ses gravures encadrées, sa pendule à colonne protégée par un vaste globe, s'imprima aussitôt dans son souvenir en traces qui ne s'effacèrent jamais. Lorsqu'elle sortit de cette maison, après avoir remercié les propriétaires, il faisait nuit noire. Ces braves gens lui indiquèrent la route qui devait la conduire à la gare. Mais, absorbée par ses pensées, elle se trompa de chemin et prit une ruelle étroite donnant sur la grande route bordée d'arbres qui dressaient dans la nuit leurs branches dépouillées. Elle marcha quelque temps dans l'obscurité, espérant toujours trouver un chemin qui la ramènerait au village. Elle hâtait le pas, sans frayeur pourtant, mais préoccupée par la crainte d'être en retard et d'inquiéter Georges. Elle avait fait une centaine de pas sur la route lorsqu'une forme noire se dressa tout à coup devant elle. En même temps, elle fut abordée par un homme dont l'obscurité l'empêcha de distinguer le vêtement et le visage. « Pardon, madame, » dit cet homme en se mettant devant elle pour l'empêcher d'avancer, « voudrais bien savoir l'heure qu'il est. » Elle resta interdite, et malgré tout son courage, elle sentit un frisson glacer le sang de ses veines. Elle était seule, loin de tout secours, et aucune lumière n'apparaissait aux murailles sombres des maisons éloignées. « Que voulez-vous de moi ? » dit-elle d'une voix qui tremblait malgré les efforts qu'elle faisait pour l'affermir. « La route est longue d'ici à Paris et j'ai besoin de manger et de boire en chemin. Donnez-moi votre argent. » Elle tira de sa poche sa modeste bourse et la tendit à l'homme. « Voilà tout ce que je possède, lui dit-elle. Je suis pauvre. » Le fait est que c'est pas lourd, fit-il en soupesant la bourse. Est-ce bien tout ce que vous avez ? Et il lui saisit le bras avec tant de force qu'elle poussa un cri de terreur. Alors, je ne veux pas vous faire de mal, dit l'homme en la lâchant. Passez au large, c'est bon. Malheur à vous, hein, si vous parlez aux gendarmes. Vous êtes d'ici ?
Non, j'habite Paris.
Vous retournez à pied ?
Non, je voulais prendre le chemin de fer. Je me suis trompé de route.
Ah, c'est comme ça que vous vous êtes rabattu par ici. Ça n'a pas dû vous faire un sensible plaisir de me rencontrer. Tenez, venez avec moi, je vais vous mettre dans votre chemin. Jeanne hésita un instant. Faire la route en compagnie de cet homme lui causait une appréhension qu'elle ne pouvait cacher. « Vous croyez rien, dit-il. J'ai jamais fait de mal à une femme. Je marcherai devant, si vous voulez. Il y en a pour 10 minutes. » Jeanne se rassura un peu et suivit, sans trop de répugnance, son guide étrange. Puis tout à coup, une pensée lui traversa l'esprit. Elle se dit que cet homme, qui semblait faire le métier de dépouiller les passants, la nuit, sur la grande route, connaissait peut-être les bandits qui avaient assassiné son père. Elle pensa que, par lui, elle pourrait peut-être savoir. Et cette idée la dominant maintenant, tout entière, elle n'éprouva plus aucune frayeur et se rapprocha hardiment de l'homme. Celui-ci s'arrêta un instant pour allumer sa pipe. Il eut soin de cacher avec sa main la flamme de l'allumette, de telle sorte qu'elle ne put éclairer son visage. Mais en même temps, il dirigea adroitement cette clarté fugitive du côté de Jeanne et lança en même temps vers elle un rapide regard pour savoir sans doute à qui il avait affaire. Il paraît que le résultat de cet examen fut satisfaisant, car il dit après avoir soufflé l'allumette « Mort, hein, mais quand on est joli comme ça, on ne devrait pas se promener à la tombée de la nuit sur les grands chemins. » Jeanne eut un mouvement d'effroi. « Mais je vous dis que vous n'avez rien à craindre, » reprit le singulier personnage, comme s'il eût été fâché qu'elle doutât de lui. « Je vous ai demandé de l'argent parce que je suis malheureux, mais je ne vous toucherai pas. »« Ah oui, il faut en effet que vous soyez bien malheureux pour faire un pareil métier. »« Que voulez-vous donc que je fasse ?
Croyez-vous que ce soit si facile de gagner sa vie en travaillant?
Il y a pourtant d'honnêtes gens qui aimeraient mieux mourir de faim que de voler, dit-elle d'un ton ferme.
Il s'arrêta soudain. Elle pensa qu'elle l'avait irrité et craignit quelque violence. Mais au contraire, son compagnon parut goûter cette audace.
Mais il faut que vous soyez une rude femme pour me parler ainsi, dit-il. Tenez, allez, nous allons prendre à gauche, je vous conduirai jusqu'à la gare.
Il n'y avait pas moyen de refuser cette offre, et d'ailleurs, Jeanne commençait à être intriguée par le bizarre caractère de ce voleur, dont le langage n'était pas grossier et qui semblait même avoir pour elle certaines prévenances. On lui dit qu'il cherchait à continuer la conversation afin d'expliquer sa vie et d'excuser l'infâme métier qu'il faisait, car il reprit au bout de peu d'instants.
« Ceux qui ont toujours été heureux ne savent pas combien il est souvent difficile à un pauvre diable de rester honnête homme. »
Il poussa un soupir et continua.
« Ainsi, moi, tenez, j'avais pour père un ivrogne, un débauché. Il rentrait saoul tous les jours et battait ma mère. Il m'a mis à la porte de chez lui un matin parce que j'avais voulu défendre la bonne femme. Oui, j'avais pris un chenet dans la cheminée et je l'aurais tué, lui, comme un chien. C'était trop fort à la fin. Je me trouvais donc sur le pavé, bon, j'avais 13 ans. J'entrais dans une usine à Saint-Denis, une filature. J'y restais pendant 3 années. J'étions 500 ouvriers et apprentis. On venait le matin à 5 heures, été et hiver, et on travaillait jusqu'à 6. Je gagnais 20 sous par jour. 20 sous pour manger, s'habiller, se loger. Le patron de cette usine était tellement riche que tout un quartier de Saint-Denis lui appartenait. Il avait encore des maisons à Paris et donnait des millions à ses enfants quand il les mariait. Et nous, on crevait de faim, et nous étions obligés d'aller habiter des mansardes ou des caves. Un beau jour, il renvoya d'un coup 100 ouvriers, parce que les affaires marchaient un peu moins. J'étais du nombre, alors... Vous comprenez que j'avais pas d'économie. Je voulais rentrer à la maison. La bonne femme de mère m'embrassa, mais le père me jeta dehors par les épaules en me disant qu'il n'avait pas besoin d'une bouchée de plus à nourrir. Alors, qu'est-ce que je pouvais devenir? J'avais pas de métier. J'entrais dans une imprimerie pour faire des courses. J'ouvris des portières, je criais les journaux sur le boulevard. Ça ne rapportait pas lourd. Et un jour que j'avais plus de souliers et que je marchais pieds nus dans la neige, je volais à la devanture d'un cordonnier. J'attrapais 3 mois de prison. Et quand je sortis, personne ne voulut plus m'employer. J'avais fait à la prison de mauvaises connaissances. Je l'ai retrouvé dans Paris. Pendant quelques années, j'ai mené une vie de bandit. Qui la faute? Je n'étais pas méchant au fond, mais... On se laisse entraîner. Ceux qui n'ont pas passé par là ne savent pas ce que c'est. Dernièrement, mon père est mort, ma mère restait toute seule, infirme, pouvant pas travailler. Fallait bien la nourrir.
Il hésita un instant, puis reprit.
J'avais honte de lui donner à manger le pain dont j'avais vécu jusqu'alors. Je voulais prendre un état. Ben, je vais ici travailler aux carrières. C'était pénible et on gagne 30 sous par jour. Depuis une semaine, on m'a renvoyé parce qu'il paraît que le bâtiment va plus à Paris. Alors, j'ai repris mon ancien métier. Voilà.
Il n'était plus qu'à 100 mètres de la gare. L'homme s'arrêta. Il se souciait peu, sans doute, de se rapprocher d'un endroit où il savait qu'un gendarme était toujours là en faction. « Dites-moi où demeure votre mère, » dit Jeanne. « J'irai la voir. » Je pourrais peut-être lui être utile. Je vous ai dit que j'étais pauvre, mais les malheureux doivent s'aider entre eux.
Oh, vous êtes bonne, vous, fit l'individu, touché de cette offre généreuse. Quand je pense à ma bonne femme de mère, à tout ce qu'elle a souffert par mon père et par moi, c'est à cause d'elle que j'ai jamais voulu faire de mal à une femme. Parole.
Il tira de sa poche
de la blouse le porte-monnaie que la jeune fille lui avait remis sur la grande route. « Tenez, dit-il, voici votre argent, je ne veux pas y toucher. » Jeanne fut obligée de forcer cet étrange voleur à accepter quelques pièces blanches qui ne prit qu'après avoir résisté longtemps aux instants de la jeune fille. « Ma mère, elle demeure humiliera. 35. À la chapelle, dit-il en ôtant sa casquette. Est-ce là Madame Greliche? Si vous allez la voir, lui dites pas vous m'avez rencontré et elle croit que je travaille toujours aux carrières. » Et après avoir prononcé ces mots d'une voix basse, l'homme disparut dans la nuit, laissant Jeanne toute troublée par cette singulière aventure. 2 jours après, le 23 décembre, un journal du matin publiait les faits divers suivants. Encore une attaque nocturne. La nuit dernière, au moment où il venait de quitter le cercle du progrès pour entrer à pied chez lui rue d'Aumale, un gentilhomme étranger, fort connu et fort aimé à Paris, M. le comte de C, a été assailli en pleine rue Taitbout par un individu qui lui a donné un coup de couteau dans la poitrine. Le comte de C est tombé sans connaissance et l'assassin a pu lui soustraire son portefeuille contenant une somme très importante. 2 gardiens de la paix, attirés par les cris de la victime, ont essayé de poursuivre le voleur. Un affreux voyou vêtu d'une blouse bleue et coiffé d'une casquette de soie. Ils ont prétendu l'avoir vu monter dans une voiture de maître qui stationnait rue de Châteaudun et qui est partie aussitôt à toute vitesse. Nous craignons que ces braves agents n'aient été victimes d'une illusion, que, pour s'excuser de n'avoir pas réussi à atteindre l'assassin, ils n'aient inventé cette histoire digne de feu Ponson du Terrail. Et un peu plus loin, sous cette rubrique « Un drame terrible », au numéro 65 de la rue de Provence, demeuraient depuis quelques années 2 vieillards, Monsieur D et sa sœur. Ils menaient une vie très modeste et très retirée. Cependant, dans le quartier, ils passaient pour avoir de la fortune. Ces vieillards étaient servis par une femme de ménage qui partait à midi et revenait à 4 heures. Or, hier, vers 3 heures de l'après-midi, une femme folle de terreur et couverte de sang apparut tout à coup à la fenêtre de l'appartement occupé par M. D. Cette femme jeta un cri déchirant, puis elle disparut comme si elle avait été brusquement tirée en arrière. Un gardien de la paix monta aussitôt, accompagné du concierge de la maison. Dans la pièce qui servait de salon à M. D, ils trouvèrent le corps inanimé de ce malheureux vieillard. Il avait reçu un coup de couteau au cœur et était mort. Un peu plus loin, gisait Mademoiselle D, le visage et les vêtements inondés de sang. Elle avait à la tête et à la gorge des blessures graves. Elle poussait les cris inarticulés et ne pouvait plus parler. À l'arrivée des 2 hommes qui venaient la secourir, elle parut cependant retrouver ses forces. Elle montra le secrétaire ouvert, dont les papiers avaient été bouleversés, puis elle indiqua du regard une porte qui se trouvait en face d'elle. Le gardien de la paix ouvrit cette porte. Elle donnait sur une sorte de cabinet noir, très exigu, où étaient pendus des vêtements protégés par un grand rideau vert. À peine la porte de ce cabinet fut-elle ouverte, qu'un homme en sortit brusquement. Son interruption fut si violente que l'agent trébucha contre un meuble. Heureusement, le concierge, qui se trouvait derrière lui et qui est doué d'une grande vigueur, sauta au collet de l'assassin et put le maintenir. Pendant ce temps, d'autres personnes de la maison avaient monté l'escalier. Elles arrivèrent pour prêter main-forte aux 2 hommes, qui avaient toutes les peines du monde à garder leurs prisonniers dont la résistance était désespérée. Ce forcené a été conduit au poste de la rue de la Victoire. Interrogé par le commissaire de police, il a déclaré se nommer le Loupeur, un sobriquet comme en prennent les malfaiteurs de cette espèce. mais il a refusé de faire connaître son véritable nom. C'est un homme de petite taille, au visage livide, au regard hésitant. Il porte une barbe noire très épaisse et ses vêtements sont misérables. Il affecte un cynisme révoltant. À bientôt d'autres détails. Le surlendemain, le journal complétait en ces termes ses premiers renseignements. Le drame de la rue de Provence, suite. L'assassin de la rue de Provence a été interrogé aujourd'hui par le juge d'instruction. Il refuse toujours de faire connaître son véritable nom. Quant au mobile du crime, il n'est pas douteux. Au moment où il a été arrêté, le misérable était porteur d'une liasse de titres qu'il avait cachée dans une poche de son paletot et d'un rouleau contenant 870 francs. L'état de Mademoiselle D s'est un peu amélioré. Elle a pu donner hier quelques renseignements sur la manière dont le crime a été accompli. Le loupeur, qui ainsi qu'on le verra par la suite, paraissait être fort au courant des habitudes de la maison, s'est présenté à 3 heures, alors qu'il savait que la femme de ménage devait être absente et que les deux vieillards se trouvaient seuls. Monsieur D était fort prudent. En entendant sonner, il entr'ouvrit la porte d'entrée de l'appartement qui était fermée par une chaîne solide. Il demanda ce qu'on lui voulait. Le loupeur se fit passer pour un neveu des deux vieillards, Clément Barre, le fils d'une de leurs sœurs mariées aux colonies et qui servait comme marin sur un navire de commerce. Monsieur D aimait beaucoup cette sœur. Elle lui avait écrit précisément plusieurs mois auparavant pour lui annoncer la visite de son fils. Monsieur D ne douta pas que cet étranger ne fût son neveu, qu'il n'avait jamais vu. Et au moment où Monsieur D venait de l'introduire dans le salon et de l'annoncer à sa sœur, l'assassin se retourna brusquement et donna au vieillard un violent coup de poignard qu'il étendit raide mort. Avant que Mademoiselle D fût revenue de son saisissement, il se jeta sur elle et la frappa à son tour. Mais l'arme glissa sur un busque du corset. La vieille demoiselle put s'élancer à la fenêtre et crier au secours. Il la tira alors brusquement en arrière et la frappa à la gorge pour l'empêcher de crier. Et quand il la vit tomber inanimée, il s'élança vers le secrétaire, l'ouvrit à l'aide d'une pince monseigneur et commença à voler ce qu'il contenait. Mais l'arrivée du concierge, accompagné d'un gardien de la paix, l'obligea à se cacher. Il alla se réfugier dans le cabinet sombre, situé auprès du salon où il a été arrêté. Impossible de connaître l'identité du prévenu. Il répond toujours par des plaisanteries cyniques aux questions du magistrat instructeur. On espère sauver Mademoiselle D.